Europe 1.
Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'Université de Toulouse. On vous doit notamment une excellente biographie de Ronald Reagan, parue chez Perrin en 2015. Aux États-Unis, on est en pleine campagne pour les élections de mi-mandat qui vont se dérouler mardi prochain et renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Joe Biden a appelé à défendre la démocratie pour éviter le chaos. Il a même parlé de démocratie en péril, un argument que l'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche du président des États-Unis. Alors c'est quoi ? C'est de l'électoralisme ? De quoi a-t-il peur ?
Non, je crois qu'il a, mis le doigt sur quelque chose de très réel. C'est, si vous voulez, les premières élections qui arrivent après l'insurrection du Capitole, le 6 janvier 2021. Je pense qu'il ne faut pas minimiser la crainte des démocrates, mais de certains républicains aussi, après cette insurrection ratée, que ce n'était qu'un galop d'essai pour une nouvelle page qui se tourne vers plus de violence dans la politique américaine, et que ces midterms, c'est le premier test grandeur nature, parce que la crainte, c'est que si les démocrates gagnent, les républicains ou certains républicains, Trump en premier lieu, n'accepteront pas les résultats et basculeront de nouveau dans la violence. Ou, crainte numéro 2, c'est que si les républicains l'emportent, ils vont, au niveau des États, par exemple en Arizona, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, manipuler la loi électorale de telle façon que, en 2024, pour les prochaines élections présidentielles, les démocrates ne puissent pas l'emporter. Que même s'ils l'emportent dans les urnes, ils seront accusés de fraude par les élus locaux républicains, et donc ces États seront donnés aux candidats républicains, peut-être Trump. Voilà, donc on est dans un enjeu institutionnel et démocratique qui est réel.
Et quand Joe Biden parle de semi-fascisme, à quoi fait-il allusion d'après vous ?
Alors il fait allusion, je pense, là aussi on est dans l'après 6 janvier 2021, il fait allusion à Trump et toute la base du Parti républicain qui est acquis à Trump et un nombre grandissant d'élus et de candidats qui ne joue plus le jeu démocratique avec un petit dé, c'est-à-dire qu'il ne considère plus l'opposant du Parti démocrate comme légitime. C'est un parti des démocrates qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas le droit de concourir dans les élections, et s'il gagne les élections, il n'a pas le droit de gagner les élections. Donc on bascule dans, c'est ça qu'il appelle du semi-fascisme, dans un régime où l'opposition n'a pas droit de citer, et où on va empêcher par tous les moyens possibles, médiatiques, institutionnels, électoraux, voire par la violence, à l'opposition démocrate de remporter des élections.
Mais les Trumpistes pourraient dire la même chose. Après tout, Donald Trump, avant d'être élu en 2016, lui aussi, on considérait qu'il n'avait pas le droit de gagner les élections, et une fois élu, on a estimé qu'il n'était pas légitime.
Tellement pas légitime que pendant les 4 ans de sa présidence, il a dû subir 2 procès en destitution, ce qui était unique dans l'histoire des États-Unis. Donc effectivement, il a eu aussi, comment dire, une opposition qui ne le considérait pas comme légitime. Mais dans le cas de Trump, il s'en est sorti par le haut, puisqu'il a été innocenté 2 fois dans ses procès de destitution. Et dans ce cas-là, en fait, les institutions ont fonctionné pour lui. On pourrait aussi dire que, on pourrait se rappeler qu'en 2016, Trump a perdu le vote populaire par 3 millions de voix. Il a remporté l'élection présidentielle grâce au système indirect des grands électeurs. Les démocrates, ils ont avalé cette couleuvre en jouant le jeu des institutions, en disant « bon, d'accord, on a Hillary Clinton, elle a eu la majorité des voix, mais bon, d'accord, elle perd l'élection quand même. » Donc les démocrates jouent encore le jeu des institutions, même quand ça ne les arrange pas, ou ça ne les avantage pas. Quand Biden parle de semi-fascisme, c'est qu'il n'est pas convaincu que les républicains, dans l'autre sens, le système fonctionnerait aussi.
Alors c'est vrai que de nombreux républicains qui se présentent lors de ces élections de mid-term, pas forcément pour la Chambre des représentants, pour le Sénat d'ailleurs, il y a d'autres scrutins, c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux refusent de s'engager à reconnaître le résultat de l'élection. Mais pourquoi ne le reconnaîtrait-il pas ? Qu'est-ce qui pourrait jeter un doute sur ce résultat ?
Alors ça, c'est très compliqué. Vous avez raison qu'en fait, l'enjeu, c'est pas le Congrès, c'est les élections dans les États, où on va élire des gouverneurs, mais aussi des secrétaires d'État locaux, c'est le terme utilisé, qui sont en fait, au niveau des États, des élus qui doivent organiser les élections. Il n'y a pas de ministère de l'Intérieur aux États-Unis qui va organiser les élections au plan national. Les élections sont organisées par les élus locaux dans chaque État. Et ils regardent, ils se projettent vers 2024, vers les élections présidentielles. En disant que, et là, la théorie qu'ils avancent, ces candidats républicains, qui est en partie correcte, elle se base sur la Constitution des États-Unis, qui dit que c'est justement aux États d'organiser les élections et de décider des résultats des élections, en particulier pour les élections présidentielles. Ce qui est à la fois simple, mais vague, parce que les républicains d'aujourd'hui vont dire « Ok, ça veut dire que si dans l'État du Wisconsin ou de l'Arizona, par exemple, où ces questions sont vraiment très présentes dans la campagne actuelle, si dans l'Arizona, en 2024, Joe Biden est le candidat démocrate pour les présidentielles et qu'il remporte l'élection, peut-être de peu, comme en 2020. » Les élus locaux républicains vont dire « la marge n'est pas immense, il y a sans doute eu fraude, l'élection est frauduleuse ». Dans ce cas-là, les élus locaux de l'Arizona peuvent dire « on annule le résultat de l'élection dans notre État, l'Arizona, et nous, élus locaux, on va modifier le résultat ». On va dire « sur le papier, on dirait que Biden a gagné, mais nous, on pense que c'est suspect, il y a eu des fraudes, donc on va dire que c'est le candidat républicain, Trump par exemple, qui l'emporte ». Et donc, l'enjeu, c'est qu'on va donner aux élus locaux le droit de modifier le résultat de l'élection présidentielle. Et c'est ça qui se joue en ce moment, parce que dans ce cas-là, l'élection de 2024 sera biaisée.
On fait une pause, Françoise Coste, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Françoise Coste, professeure de civilisation américaine à l'université de Toulouse. Ces élections de mi-mandat, près de 30 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée, soit en se déplaçant physiquement, soit en envoyant leur bulletin par la poste. C'est le vote par correspondance qui est l'objet de tous les soupçons chez les républicains. Le vote par correspondance et les machines à voter.
Voilà, c'est-à-dire que cette paranoïa des républicains sur la fraude électorale dont on parlait, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du fait que le processus électoral, il n'est pas en béton armé aux États-Unis, parce que c'est pas juste le jour de l'élection où, comme en France, on va tous voter le même jour dans des urnes transparentes et faire un dépouillement dès la fermeture des bureaux de vote devant tout le monde. Non, ce processus électoral, il est tellement long, avec effectivement beaucoup, des dizaines de millions d'électeurs qui votent par la poste. Est-ce que ce processus est safe? Est-ce qu'il est complètement sécurisé? C'est parce que ces questions se posent que les républicains peuvent, de bonne ou mauvaise foi, émettre des doutes sur la véracité du scrutin. Mais en même temps, c'est ce type de vote par correspondance ou de vote anticipé, à la base, ça partait d'un très bon sentiment qui était que, aux États-Unis, il y a une très haute abstention. 50% des gens ne votent pas. Donc, depuis une vingtaine d'années, on essaye de trouver le plus de mécanismes possibles pour aider le vote. Donc ça fait partie des solutions. Mais effectivement, ça prête le flanc pour se faire battre. Même s'il semble qu'il y ait très peu de fraude, le doute existe.
Le plus simple, ce serait peut-être de déplacer le vote au dimanche, comme chez nous. Les gens pourraient voter plus facilement qu'un jour ouvrable comme le mardi.
Ça, c'est un serpent de mer de la politique américaine. On en revient au fait que le vote du mardi, il découle de la Constitution des États-Unis qui est très difficile à modifier. Et en plus, la raison pour laquelle on l'a placé le mardi, c'est parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et donc, faire voter les gens le dimanche, ça provoquerait l'opposition de toutes les églises américaines qui sont très puissantes. Et voilà, c'est même pas la peine d'essayer.
Françoise Coste, Donald Trump vient d'annoncer qu'il sera probablement candidat en 2024. Comment expliquez-vous le culte de la personnalité dont il est l'objet? Un culte de la personnalité bien supérieur à celui dont ont pu bénéficier en leur temps des républicains comme Nixon ou Reagan. Reagan auquel vous avez consacré une formidable biographie. Or, Nixon et Reagan avaient été beaucoup plus efficaces que Donald Trump. Et ils ont d'ailleurs été élus et réélus les doigts dans le nez.
Ah oui, ils ont été réélus triomphalement en 72 et 84 respectivement. Ils étaient beaucoup plus populaires, ils ont été réélus facilement, ils ont fait beaucoup plus de réformes d'ampleur concrètement que Trump. Mais Trump, Il faut lui reconnaître ça. Il est très fort dans... C'est un showman, encore plus que Reagan, qui était hyper charismatique et qui était un grand communicateur et qui était très fort, dans les, bien entendu, dans l'utilisation des médias, en particulier la télé. Mais Trump, il va encore plus loin parce que il a été le premier, sans doute, homme politique américain à vraiment savoir utiliser les réseaux sociaux pour sa propre gloire personnelle. Donc il a inventé, si vous voulez, un nouveau genre de communication politique, et personne ne peut rivaliser avec lui sur ça. Et puis il a aussi, encore plus que Nixon et Reagan qui avaient commencé, mais il est allé encore plus loin, il a su exploiter les médias de son époque avec une rhétorique populiste, beaucoup plus explicite que chez ses prédécesseurs, à un moment où la population américaine était encore plus mûre pour être réceptrice de ce type de populisme, une population américaine beaucoup plus divisée qu'il y a 40 ou 50 ans, une population américaine beaucoup plus inquiète sur son avenir qu'il y a 40 ou 50 ans. Et cette inquiétude, cette division, ce sentiment de paranoïa, de victimisation d'une grande partie de la population blanche en particulier, Nixon et Reagan, ils sont les présidents d'avant la désindustrialisation massive, par exemple. C'est les présidents où il y a encore une classe ouvrière qui sent que elle va être en déclin, mais qui est encore très puissante. Cette classe ouvrière blanche, elle a été détruite par les délocalisations des 40 dernières années. Donc, la population est plus fragile et elle était plus mûre pour être cueillie par un populiste de génie comme Trump.
On a l'impression que Trump est capable de faire faire n'importe quoi à ses électeurs et aux élus républicains qui dépendent de son adoubement. À votre avis, Françoise Coste, si les républicains remportent la majorité au mid-term, est-ce qu'ils risquent de diminuer le soutien de l'Amérique à l'Ukraine, par exemple, et pourquoi le ferait-il ?
Ça, c'est un grand risque. Et ça, c'est en fait une des seules constantes idéologique chez Trump. Trump, il a pas vraiment un corpus idéologique très précis, sauf pour deux ou trois convictions anciennes, qui datent d'avant son entrée en politique en 2015. Et l'admiration pour Poutine fait partie de ces convictions trumpiennes. Une admiration qui date de quand Trump était businessman et que son entreprise essayait de faire du business en Russie, de construire des golfs en Russie, de construire des gratte-ciel en Russie. Donc Trump avait déjà un réseau russe avant de rentrer en politique. Il faisait du business avec des banques russes aussi, parce que pendant très longtemps, les banques américaines ne voulaient plus financer l'entreprise Trump alors que les banques russes le faisaient encore. Donc bref, il avait un tropisme pro-russe en tant que businessman, qu'il a poursuivi en tant qu'élu, qui était en plus matiné d'une certaine admiration pour la Trump poutinienne. C'est-à-dire, Poutine, il tient sa population, c'est un leader autoritaire. Et il y a chez Trump cette envie, on l'a vu le 6 janvier 2021, de rendre le... On en a parlé, enfin, de rendre le régime américain peut-être un peu moins démocratique, un peu plus autoritaire. Il se rêverait en Poutine américain, Trump. Donc, d'emblée, dès qu'il a été élu, dès la convention républicaine de 2016, en réalité, Trump et son équipe avaient modifié le programme officiel du Parti républicain, qui déjà à l'époque, il y avait la guerre au Donbass en particulier, le Parti républicain était plutôt pro-ukrainien et anti-russe. Cette clause du programme officiel du parti avait été supprimée par les Trumpiens. Et puis après, on a vu pendant 4 ans de Trump à la Maison-Blanche qu'effectivement, il a tout fait pour fragiliser l'Ukraine. Et d'ailleurs, on l'oublie aujourd'hui, mais la première tentative de destitution contre Trump en début 2020, c'était à cause d'un chantage qu'il avait fait au président Zelensky, que personne ne connaissait à l'époque, où il voulait que Zelensky lui donne des infos sur des magouilles de business du fils de Biden, Hunter Biden, en Ukraine, contre des missiles américains que le gouvernement américain avait promis et que Trump, en fait, ne voulait pas livrer à l'Ukraine. Donc, c'est une vieille histoire, ça. Et donc, il n'y a pas de raison pour qu'on revienne en arrière si les républicains l'emportent mardi prochain. Et je pense qu'au Pentagone, qui, lui, pour le coup, le leadership du Pentagone est visiblement, bien entendu, pro-ukrainien et anti-russe, à la Maison-Blanche aussi, si le Congrès devient républicain mardi, il risque d'y avoir des fortes tensions entre le législatif, le militaire, l'exécutif aux États-Unis sur la question de la guerre en Ukraine.
Françoise Coste, une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a pour vous un vrai risque de guerre civile aux États-Unis, comme on le dit ?
La question se pose de plus en plus. Ce qui est frappant, c'est que on voit de plus en plus d'historiens américains, de politistes américains, des gens qui ont travaillé, écrit sur l'insurrection anti-américaine en Irak, par exemple. Enfin bon, donc des spécialistes de la violence et de la guerre civile qui disent de plus en plus d'éléments chez nous, dans notre système, font penser à une guerre civile en germe. C'est peut-être un peu paranoïaque et excessif, mais je n'exclus pas, en tout cas, une grave crise institutionnelle qui va, entre les midterms de 2022 et la présidentielle de 2024, on ne va pas être dans un temps politique électoral normal. La campagne présidentielle de 2024 ne sera pas normale parce que tout va se passer sous l'ombre, le spectre de la violence et du non-respect des résultats par les républicains.
Merci Françoise Coste. On fait une pause et on se rend à l'Assemblée nationale où, en 2022, rien n'est prévu pour les députés qui vont accoucher. Les congés maternité n'existent pas.